Vous écoutez France Culture.
Dites-t'en, dimit-t'en. Dites-t'en, dimit-t'en. Talk to you, talk. Talk to you, tea. Dites-t'en, dimit-t'en.
Le tête-à-tête. Frédéric Taddeï, Alain Benoît. Il a la plus grande bibliothèque privée de France, plus de 150 000 ouvrages, il a écrit 90 livres, des milliers d'articles, mais on le connaît seulement pour avoir été le penseur et le théoricien de la Nouvelle Droite. Aujourd'hui, à 68 ans, il publie « Mémoire vive », 300 pages d'entretien avec François Bousquet aux éditions de Fallois. Bonjour Alain de Benoît.
Bonjour Frédéric Taddeï.
La Nouvelle Droite a eu son heure de gloire à la fin des années 70, il y a 30 ans. Et c'est bien simple, hein, on ne parlait que de ça à l'époque. Existe-t-elle encore? Et si oui, comment la définissez-vous?
D'abord, oui, elle existe encore. Elle s'est métamorphosée, évidemment, au fil des décennies, parce que on peut sans doute lui adresser différents reproches, mais certainement pas d'avoir manqué de continuité. 1968-2012, ça fait une paye, n'est-ce pas ?
1968, hein, on en reviendra, c'est quand vous créez la revue Nouvelle École.
Voilà, alors précisément...
Juste avant mai 68.
Juste avant, janvier-février. La revue Nouvelle École, elle existe toujours. La revue Crisis, que j'ai créée en 1988, existe toujours. Le magazine Éléments, qui est vendu en kiosque, existe toujours. Donc, il y a toujours des travaux, des livres, des brochures, des articles qui sont faits.
Mais pas seulement en France, d'ailleurs, hein, dans toute l'Europe.
Beaucoup à l'étranger, également. Mais, évidemment, c'est comme toutes les étiquettes, ça vous enferme, de quelque part. Moi, je pense que les étiquettes, c'est fait pour les bocaux de confiture. Donc, ce qui m'intéresse, en réalité, c'est plus le contenu que le contenant.
L'étiquette, vous avez été collée, vous ne l'aviez pas choisie.
Pas du tout.
Vous n'auriez pas voulu qu'il y ait le mot « droite », par exemple, sur cette étiquette, si vous aviez dû la choisir ?
Elle était un peu équivoque, dans la mesure où, bien sûr, la plupart de ceux qui, à l'époque, avaient fondé ce qu'on allait appeler, en 79, la Nouvelle Droite, venaient grosso modo de milieu de droite. Mais, d'une part, c'était quand même nous enfermer dans une dichotomie droite-gauche que je crois être de plus en plus obsolète et dont nous sommes sortis rapidement. Et puis, c'était surtout suggérer que ce groupement de pensée, cette école de pensée, avait des visées ou des activités directement politiques, ce qui n'a jamais été le cas. Par exemple, jamais il nous est venu à l'idée de donner des consignes dans des élections, quelles qu'elles soient, y compris d'ailleurs la toute dernière élection présidentielle, c'était pas du tout dans nos intentions. Non, c'était au
néanmoins, départ... c'était, vous faisiez et vous faites toujours, Alain de Benoît, de la philosophie politique.
Ah bien sûr, ce que j'ai appelé la métapolitique n'est pas une manière de faire de la politique autrement, mais ça n'interdit pas, bien entendu, tout au contraire, de se pencher sur la politique, de l'observer, de l'analyser, car il n'y a rien de pire, finalement, que les idées en chambre qui sont complètement déconnectées de la réalité du monde. Moi, j'ai toujours eu le souci de coller le plus possible au moment historique que nous sommes, et justement d'essayer d'analyser ce qui est nouveau. Ce que j'ai toujours dénoncé, cette espèce de mentalité réactionnaire et restaurationniste qui ne cesse de répéter « tout est foutu, ça fout le camp », et le refrain c'est toujours « c'était mieux avant ». Bon, parfois c'était mieux avant, oui, mais c'était pas toujours mieux avant. Avant, il y avait aussi des choses détestables. Et puis dans le monde d'interrègne, nous trouvons de « Zwischenzeit », comme disent les Allemands, n'est-ce pas, où on voit s'effacer un monde que nous avons connu connu, et parfois aimé, il peut en apparaître un autre. Tout n'est pas forcément détestable dans ce qui vient. Encore faut-il savoir ce qui vient.
On va revenir à la politique, Alain de Benoist, mais d'abord, ces 150 000 livres que contient votre bibliothèque, si on pense que vous avez passé au moins 2 heures sur chacun, ça fait 12 500 jours de lecture, la moitié de votre existence exactement, puisque vous avez 68 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Si l'on retranche encore le temps que vous avez dû passer à dormir, à peu près un tiers de votre existence, il vous a resté 4 heures par jour. 4 heures à la fois pour écrire et pour vivre, pour les mondanités, c'est-à-dire voir sa famille, ses amis. Comment les avez-vous répartis ces 4 heures
Vous faites là un très mauvais calcul parce qu'il il repose sur l'idée que j'ai lu tous ces livres.
Au moins que vous y êtes intéressé.
Bien entendu, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai une bibliothèque énorme, mais c'est d'abord une bibliothèque de travail. C'est-à-dire que lorsque je travaille sur un sujet, je sais dans quel rayon aller me documenter. Mais vous savez, le côté Guinness Book des records, finalement, c'est pas ça qui est très très passionnant. Il y a aussi, reconnaissons-le, et je le dis dans Mémoire vive, une tendance un peu maniaque à la collectionnite. Hein.
À l'accumulation, mais,
oui,
on pourrait dire.
Oui, mais vous savez, la collectionnite, les psychologues connaissent très bien ce syndrome. C'est généralement le signe d'un tempérament plutôt mélancolique et qui cherche à se rassurer en ayant tout. C'est comme collectionneur de timbres qui est malade parce qu'il lui manque le timbre de l'île Maurice de 1862.
Je suis sûr que vous avez été collectionneur de timbres, au moins à une époque.
J'ai tout collectionné. Les bacs de cigares, les cartes postales, les affiches de cinéma. J'ai absolument tout collectionné. Puis après, au bout d'un certain temps, je me suis rabattu sur les livres et aussi sur les films, d'ailleurs.
Oui, justement, parce que même si vous n'avez pas lu les 150 000 ou 200 000 livres, parce qu'on dit 200 000 parfois pour ce qui concerne votre bibliothèque, même si vous n'avez pas tous lu, vous avez énormément lu Alain de Benoist et vous avez été énormément au cinéma. Et vous regardez beaucoup, beaucoup de films. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes quand même pas un homme d'action. Même si vous avez eu plus de 4 heures par jour pour vivre, vous n'avez pas été un homme d'action.
Bon, tout dépend bien sûr comment on définit l'action. Mais si vous voulez dire l'action militante, guerrière et politique, non, je ne suis pas un homme d'action. Je n'ai pas le profil d'un homme d'action. J'assume totalement l'étiquette d'intellectuel avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Mais il est exact que l'un des traits de ma personnalité a été, dès l'enfance, une boulimie extraordinaire de livres. Je raconte dans mes mémoires que je lisais à table, je lisais en marchant dans la rue, je lisais en classe. En classe, c'est plus normal, mais sauf que je ne lisais pas les livres du programme, je lisais autre chose, je fixais mon propre programme. Et puis, lorsque vers 16 ans, j'ai découvert la Cinémathèque française, qui était à ce moment-là rue d'Ulm, c'était la vieille Cinémathèque. Alors là, ça a été une espèce de basculement enchanté qui a compté pour moi autant que la classe de philo. Il y avait 3 séances, 6h30, 8h30, 10h30 à la Cinémathèque. Et je voyais les 3 tous les jours. Donc là, j'ai acquis évidemment un bagage cinématographique, à tel point d'ailleurs que ma première vocation était celle de réalisateur de cinéma. Je m'étais documenté pour entrer à l'IDEC et puis le sort en a décidé autrement, mais il s'en est fallu peut-être de peu qu'au lieu d'avoir à subir toutes sortes d'écrits plus ou moins acceptés ou non, on a eu des films.
Quand je parlais d'homme d'action, je faisais allusion à quelqu'un qui est dans la vie et pas seulement dans la réflexion, dans la pensée. J'ai l'impression que vous avez été principalement, Alain de Benoist, dans la réflexion, dans la pensée, dans l'écriture. Parce que je le rappelle, vous avez écrit 90 livres, des milliers d'articles.
Oui, bon, vous savez bien sûr que la quantité ne préjuge pas de la qualité, j'en suis le premier conscient, mais oui, j'ai beaucoup écrit, j'ai passé ma vie à lire, à écrire, et vous avez raison d'employer ce verbe, à réfléchir, et même à méditer en essayant de cultiver quelque chose qui est assez banal, mais qui tend peut-être à devenir un peu rare aujourd'hui, qui est la vie intérieure, tout simplement. Je crois qu'il faut savoir, aujourd'hui tout le monde est branché, n'est-ce pas ? Tout le monde appuie sur des boutons, des télécommandes, on vit dans un monde d'écran.
Vous n'avez pas de portable,
je le fais aussi. Je n'ai pas de portable, mais bien entendu j'utilise Internet, qui a changé quand même la vie concrète de centaines de millions de gens, ce qui d'ailleurs est susceptible d'induire une réflexion sur le fait que les grands changements technologiques sont finalement peut-être plus importants dans la vie réelle des gens que les grands changements politiques. politiques et même les certaines révolutions. Mais je crois en même temps qu'il faut savoir se déconnecter. La vie actuelle vous empêche un peu de penser par vous-même, de vous déconnecter. Vous vous baladez dans n'importe quel supermarché, bureau de poste, vous avez de la musique que tout le monde, que personne n'écoute, mais que tout le monde entend. Et finalement, vous n'êtes jamais véritablement face à vous-même. C'est sans doute une réflexion assez banale, mais moi, j'ai toujours essayé de préserver cet espace de la réflexion solitaire, parce que les idées ne viennent au fond que lorsqu'on est seul. Et voilà, j'ai fonctionné à peu près comme ça.
Alain de Benoist, cela fait une quarantaine d'années que vous occupez une place à part dans la vie intellectuelle. On vous dit très influent, bien que l'on ne vous voit jamais et que l'on vous entende rarement. Hormis sur cette antenne, vous avez collaboré au Panorama pendant 10 ans.
J'en dois dire, un souvenir assez ému parce que l'émission du Panorama, je trouve que c'était une émission formidable. Elle était merveilleusement animée par Jacques Duchâteau et ensuite par Michel Bidlowski. J'y étais à peu près 3 fois par semaine. C'était une émission quotidienne. Et on était là autour d'une table avec des points de vue évidemment très très contrastés pour analyser, présenter, parler des livres qui venaient de paraître. Et évidemment, c'était totalement mon créneau intellectuel.
Donc, on ne vous voit nulle part, on vous entend rarement. Vous avez écrit 90 livres traduits en plusieurs langues, mais on n'en fait jamais état. Des milliers d'articles, mais jamais dans la grande presse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous cachez?
Je ne me cache pas. Si des journaux de la grande presse sont prêts à m'offrir des tribunes, je saute dessus à pieds joints. J'ai quand même écrit très longtemps, vous le savez, dans le Figaro Magazine.
Oui, on peut en parler. Un peu dans Valeurs Actuelles aussi.
Beaucoup dans Valeurs Actuelles, dans le Spectacle du Monde, où je continue d'ailleurs à collaborer aujourd'hui. Je collabore surtout, effectivement, à l'étranger, aux États-Unis, la revue qui m'a le plus publié est une revue de gauche qui s'appelle Tilos, qui est la revue des élèves américains de l'école de Francfort. En Allemagne, je collabore à l'hebdomadaire Junge Freiheit régulièrement. En Italie, j'écris des papiers dans le journal de Milan. En Hongrie, je collabore régulièrement à la revue de gauche qui s'appelle Korunk. J'ai été traduit dans une quinzaine de langues et c'est vrai que on me voit sans doute plus à l'étranger. Pour prendre un exemple simple, dans les 12 jours là qui précèdent cette émission, j'étais à Bologne pour présenter la traduction de mon livre sur la crise financière. De là, je suis allé à Milan où j'ai été invité à participer à la grande émission de télévision de Gad Lerner sur la 7e chaîne de télévision. Puis je suis parti à Saint-Pétersbourg où l'université m'avait demandé de faire un cours de sociologie. De là, j'ai été faire une autre conférence à Berlin. Donc ça n'arrête pas.
Mais il n'y a qu'en France.
Et en France, on n'existe pas dès l'instant où on n'a pas de grands médias où on s'exprime et où, d'autre part, on a des idées qui sont, faut bien le dire, résolument à contre-courant, donc autour desquelles on entretient une sorte de parfum sulfureux. Ceux qui le font avec le plus de bonheur étant d'ailleurs ceux qui n'ont jamais rien lu de moi, d'une manière générale. Comme vous venez de le dire, j'ai écrit beaucoup. Si j'avais écrit des choses vraiment répréhensibles et abominables, je pense qu'on n'aurait aucune peine à trouver matière à me mettre en examen. Mais on ne cite jamais rien, n'est-ce pas? C'est ça qui est absolument formidable. Donc il y a un côté un peu kafkaïen. C'est-à-dire qu'il y a certains gens qui me font des procès d'intention. Je ne sais pas très bien, en fait, ce qu'ils me reprochent. Je crois qu'ils ne le savent pas eux-mêmes non plus, donc ils disent « c'est un personnage sulfureux ». Bon, alors qu'est-ce qui est sulfureux? C'est le diable, c'est les sorcières, on est dans la démonologie, hein, mais bon, évidemment pas dans le débat intellectuel.
Alain de Benoist, vous n'êtes ni marxiste, ni libéral, ni souverainiste, ni progressiste, ni individualiste, ni anarchiste. Beaucoup ne sauraient même pas dire si vous êtes de droite ou de gauche. Et néanmoins, le mot droite vous poursuit.
Je ne suis pas non plus nationaliste, je ne suis pas non plus fasciste, je ne suis pas non plus communiste. Vous disiez, je ne suis pas marxiste. Non, c'est vrai, je ne suis pas marxiste. D'abord, comme disait le philosophe Michel Henry, l'histoire du marxisme, c'est l'histoire des contresens qu'on a fait sur la pensée de Marx. Cela dit, j'ai quand même, à date récente, depuis quelques années, relu intensément les ouvrages de Marx. Pas très facile à lire, mais je trouve qu'à côté d'erreurs magistrales, il y a des intuitions proprement géniales et qui sont sans doute plus vraies aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque de Karl Marx.
J'étais en train de dire, c'est le mot « droite » qui vous poursuit. Vous avez écrit en 1977 un livre retentissant qui s'intitulait « Vue de droite » et qui a d'ailleurs eu le prix de l'essai de l'Académie française. Il y a eu ensuite la nouvelle droite. C'est une étiquette qu'on vous a collée, mais enfin, vous l'avez portée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne saurait plus dire, et peut-être même vous-même, Alain de Benoist, ne sauriez plus dire si vous êtes de droite ou de gauche.
Oui, vous n'avez pas tout à fait tort. Cette étiquette de droite, bon, il y a d'abord des origines, de jeunesse. C'est vrai que je m'en explique sans aucune dissimulation dans mes mémoires. Entre 16 et 18, 19 ans, j'ai milité à l'extrême droite.
Un peu plus longtemps que ça, pendant 6 ans au moins.
5 ans, puisque à partir de 66, 67, c'est déjà à peu près terminé.
Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, quand on parle de vous, dans la grande presse, on dit toujours un penseur d'extrême droite. Un mot que vous réfutez.
Oui, c'est ça qui est d'ailleurs formidable, parce que c'est une espèce d'approche anti-historique, c'est-à-dire ce que vous avez fait à 18 ans, il y a plus d'un demi-siècle, finalement, on le tient comme contemporain et comme tout à fait significatif, voire descriptif de ce que vous pensez aujourd'hui. C'est assez curieux. Alors, le livre vu de droite, le livre vu de droite, sauf que la première page du livre s'ouvrait, je cite en substance évidemment, sur cette phrase « Les idées que je soutiens aujourd'hui sont à droite, mais ne sont sans doute pas de droite, et j'imagine très bien des circonstances dans lesquelles elles pourraient être à gauche. » Alors depuis, je crois qu'effectivement les choses ont évolué dans ce sens. Bon, d'abord, l'immense majorité des gens ne voient plus vraiment la différence entre droite et gauche. Les intellectuels ont pris beaucoup de champs, je trouve, par rapport à ces termes finalement très réducteurs. Quand on voit les principaux essais en librairie, ce dont on parle le plus, je pense aux essais de Finkielkraut, de Régis Debray, de Serge Latouche, de Jean-Claude Michéa, finalement, est-ce qu'ils sont de droite ou de gauche? On repère ici ou là des signes d'eux, mais on ne peut pas les classer, encore une fois, dans cette étiquette. Alors, pour ce qui me concerne, parfois je me définis comme un homme de gauche, de droite, ou comme un homme de droite, de gauche. Quelquefois, je dis que j'ai plutôt aujourd'hui des idées de gauche et des valeurs de droite. Tout cela reflue dans l'immense indifférence que j'ai pour les étiquettes, s'il faut bien le dire.
Nous venons de vivre une élection présidentielle, Alain de Benoist, où l'on a beaucoup parlé d'argent, d'immigrés, de croissance, de valeurs universelles. Vous n'avez pas dû beaucoup vous reconnaître.
J'ai trouvé cette campagne extrêmement ennuyeuse. Je crois d'ailleurs que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont très contents qu'elle soit aujourd'hui terminée. Je l'ai trouvée si ennuyeuse que je ne me suis pas déplacé pour aller voter, ni le 22 avril, ni le 6 mai. Je précise, pour que les choses soient claires, que le dernier pour qui j'aurais voté, c'est Nicolas Sarkozy. Donc, je ne suis pas mécontent de voir, d'assister à son départ. C'est bye bye, bling bling, bling, n'est-ce pas?
Mais est-ce que vous auriez pu voter pour Marine Le Pen?
Je n'ai pas voté pour Marine Le Pen. Je n'ai jamais voté, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, parce que il y a 15 ans, il y a des gens qui disaient, Alain de Benoist, c'est le théoricien du Front National. C'est-à-dire, j'ai été le théoricien d'un mouvement pour lequel, en 30 ans, je n'ai jamais voté de ma vie. Ce qui est quand même un petit peu hallucinant. Marine Le Pen, je ne la diabolise pas, elle ne dit pas que des sottises, mais il y a beaucoup de choses qu'elle dit avec lesquelles je suis tout à fait en désaccord. Pour prendre une autre formule, mais alors là, qui va devenir un peu surréaliste, j'aurais bien aimé un candidat qui aurait fusionné Dupont-Aignan et Nathalie Arthaud, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais bien sûr, on a beaucoup parlé d'argent, et c'est normal, parce que l'argent est aujourd'hui partout, parce que la marchandisation ne cesse de s'étendre, parce que nous sommes en plein milieu d'une crise financière extrêmement grave dont certains Français croient qu'on commence à sortir, alors que je pense au contraire qu'on commence à y entrer. Et évidemment, j'ai toujours eu, moi j'en parle dans mon livre, un très très mauvais rapport à l'argent.
Vous l'avez toujours combattu, au fond?
Je l'ai toujours combattu parce que je pense que c'est le corrupteur essentiel. Je crois que c'est ce qui ramène toute qualité à une, à une quantité. L'argent, ce n'est pas seulement la monnaie, bien entendu, ce n'est pas seulement un moyen d'échange. Si autant de philosophes, depuis Aristote jusqu'à Georg Simmel, avec sa philosophie de l'argent, se sont penchés sur le problème, c'est justement qu'il y a quelque chose d'autre, à en dire. Mais ce sont des questions qui, aujourd'hui, prennent un tel relief, non seulement par les masses d'argent considérables, par la montée d'une nouvelle forme de capitalisme, finalement le capitalisme actuel qu'on appelle parfois le turbo-capitalisme, présente deux caractéristiques majeures par rapport au vieux capitalisme marchand et industriel du 18e ou du 19e, même du 20e siècle. C'est que d'une part, sa dimension purement financière et spéculative a enflé de manière absolument hallucinante, sans plus aucun rapport avec l'économie et la production réelle. Et d'autre part, ce capitalisme s'est totalement déterritorialisé. C'est-à-dire qu'il y a une époque, il y avait encore un certain ancrage national, local, territorial du capitalisme, ce qui fait que, là je fais allusion à la théorie du déversement d'Alfred Sauvy, les profits accumulés en haut de la pyramide bon, finissaient un jour ou l'autre par redescendre au moins en partie vers la base, mais on est passé d'une société en pyramide à une société en sablier, c'est-à-dire que ça passe plus. Donc les riches deviennent toujours plus riches, les pauvres deviennent toujours plus pauvres, et le capitalisme déterritorialisé s'est déconnecté des classes moyennes. Les classes moyennes avaient beaucoup profité à l'époque du fordisme, de l'expansion du capital, pour les raisons que je viens d'indiquer. Aujourd'hui, à partir du moment où les travailleurs et le prolétariat européen sont mis en concurrence dans des conditions de dumping avec des malheureux sous-payés des pays du tiers-monde ou des pays émergents, par le jeu des délocalisations, par cette sorte d'illimitation et d'internationalisation du capital qui fait que, comme l'avait très bien vu déjà Adam Smith au XVIIIe siècle, ils se transportent tout naturellement vers les endroits où ils réalisent leur profit maximum. Le capitalisme retrouve en quelque sorte, mais dans un contexte tout à fait différent, qui est celui de la mondialisation, de la globalisation, la puissance prédatrice qu'il avait au XIXe siècle, avec comme conséquence les programmes d'austérité, les programmes de rigueur, le fait que les classes moyennes et populaires sont appelées à payer les prix d'une crise dans laquelle ils ne sont pour rien, tandis que ceux qui l'ont causée continuent à s'enrichir, le phénomène des délocalisations, enfin toutes ces choses-là, évidemment, aboutissent finalement à une remise en cause généralisée de tous les acquis sociaux qui avaient été acquis par un siècle et demi de lutte sociale. Ça, je pense que c'est un des enjeux aujourd'hui les plus fondamentaux.
Alors justement, Alain de Benoist, si dans un monde idéal, dans cette élection présidentielle, car dans le monde idéal d'Alain de Benoist, il y aurait une élection présidentielle, j'imagine, puisque vous êtes un démocrate.
Certainement, mais j'ajoute qu'il n'y a pas de société idéale.
Non, bien entendu, mais rêvons un monde idéal. De quoi aurions-nous parlé dans ces élections présidentielles, d'après vous? De quoi était-il nécessaire de parler? Si on n'avait pas parlé d'argent, pour la raison que vous avez venu de dire, pas d'immigrés, parce que pour vous, il ne doit pas y avoir de bouc émissaire. On n'aurait pas parlé de valeurs universelles parce que vous n'y croyez pas. Alors, on aurait parlé de quoi?
Je crois d'abord qu'on n'aurait pas pris les problèmes systématiquement pour le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire le prix du carburant, la viande halal et je ne sais quoi. On aurait essayé d'élever le débat, même si ce n'est pas toujours très rentable d'un point de vue électoral. Mais j'ai quand même été très frappé de l'absence, ce n'est pas nouveau, mais enfin de l'absence presque totale des questions de politique internationale dans cette campagne. Alors que nous sommes quand même, sur le plan international, dans un monde plus incertain que jamais. On avait vécu à partir de 1945 et l'écrasement du nazisme dans le système qu'on appelait de Yalta, c'est-à-dire une sorte de monde bipolaire où les États-Unis et l'Union soviétique, le bloc soviétique, se livraient des luttes périphériques par le moyen des pays du tiers-monde. Lorsque le système soviétique s'est effondré de sa belle mort, les États-Unis ont cru pouvoir s'instaurer comme la seule puissance mondiale et créer un monde unipolaire qui serait à leur dévotion. ou qu'il contrôlerait en tout cas, tout à fait. Ça a été la grande époque du néoconservatisme, des projets des néocons américains. Bon, aujourd'hui, on voit bien que ça ne marche pas, et je m'en félicite d'ailleurs, puisqu'on voit apparaître, au lieu de ce monde unipolaire, un monde multipolaire, pluripolaire, hein, un pluriversum et pas un universum, si vous voulez. Hein. Mais en même temps, c'est un monde évidemment très incertain. Moi, je souhaite une organisation du monde autour d'un certain nombre de grands blocs de culture et de civilisation qui régulent la globalisation actuelle et qui puissent s'engager dans des activités de dialogue, d'aide mutuelle, chaque fois que cela correspond à leurs intérêts. Ce problème de ce que Schmitt avait appelé le nomos de la Terre, c'est-à-dire finalement le grand ordre international qui régit les rapports internationaux.
Schmitt, c'est Carl Schmitt. Hein.
Carl Schmitt, oui. Est complètement passé à l'as. On a parlé de l'Europe, mais on a parlé de l'Europe pour savoir si on allait réussir à renégocier le traité dont on parle actuellement pour y adjoindre un petit moratoire prévoyant de parler de la croissance, comme si le fait de parler de la croissance dans ce traité allait suffire à donner les moyens de faire revenir la croissance.
Vous n'y croyez pas non plus à la croissance, d'ailleurs. Vous avez écrit un livre récemment sur la décroissance.
J'ai écrit un livre sur la décroissance, mais je vois bien que tous les hommes politiques aujourd'hui n'attendent qu'une chose, c'est la croissance. Mais non, pas du tout les moyens de la faire repartir. Et s'ajoute à cela, évidemment, la crise de la dette publique qui a pris le relais de la dette privée, et crise à laquelle les États semblent croire pouvoir faire face uniquement par l'application de mesures d'austérité et de rigueur qui pèseront évidemment sur le pouvoir d'achat, sur les rentrées fiscales, qui augmenteront le chômage et qui en définitive augmenteront les déficits alors qu'il s'agissait de les augmenter.
Bon,
de les réduire. Bon. Mais sur la question européenne, le projet européen des principaux candidats n'a pas du tout été esquissé. De quelle Europe nous propose-t-il ? Aucun d'entre eux n'a répondu à la grande question de savoir si on veut faire l'Europe en tant qu'Europe puissance, une puissance autonome ayant des frontières géopolitiques bien délimitées et destinées à s'affirmer dans le monde comme un pôle de puissance dans un monde multipolaire, ou si l'on veut faire une Europe marché qui sera une simple section d'un grand marché transatlantique de libre-échange, ce qui est évidemment deux projets totalement différents avec des conséquences considérables sur le plan technologique, sur le plan militaire, etc. Donc, tous ces problèmes-là n'ont pas du tout été abordés. Et puis, les causes fondamentales de la crise n'ont pas non plus été abordées. Sarkozy n'a cessé de dire, vous comprenez, c'était pas facile avec la crise, pour ce qui est d'ailleurs exact. Je ne suis pas convaincu que François Hollande se serait mieux débrouillé. Mais, en tout cas, d'où vient cette crise ? Qui en sont les principaux responsables ? Quels sont les moyens dont le politique peut encore se doter pour faire face à la guerre menée contre les États européens par les marchés financiers hier, aujourd'hui et demain ? Bon, finalement, tout ça est un peu passé à l'as. Mélenchon en a un petit peu parlé. En même temps, c'est vrai que la campagne de Mélenchon était un peu l'événement de cette élection du premier tour. Il fait ses qualités de tribun, etc. Mais on a l'impression qu'à un moment, il a pris un peu la grosse tête. Moi, je l'aime bien, Mélenchon. J'ai publié un entretien avec lui dans la revue Crisis il y a quelques années, où il disait des choses d'ailleurs tout à fait intéressantes. Mais enfin, bon, là n'est pas la question. Ta dim ta ta ka ta dim ta ta ka di ku ta dim ta ta ku di ku ta ta dim ta ta ka ta dim ta ta ka di ku ta dim ta ta ku di ku ta. Vous écoutez le Tête à Tête de Frédéric Taddeï.
Alain de Benoît, vous y faisiez allusion tout à l'heure, vous avez milité quand vous étiez jeune à l'extrême droite, à la Fédération des étudiants nationalistes et à Europe Action. Oui. Rien dans votre famille ne vous y prédisposait. Comment l'expliquez-vous rétrospectivement ? Dans Mémoire vive, vous racontez le déroulement, tout ça, mais rétrospectivement, qu'y avait-il en vous ? C'est pas anodin d'aller militer à l'extrême droite
bien
quand on n'y est pas porté par
bien
sa
entendu.
Famille.
Effectivement, je n'avais aucune détermination familiale. Je veux un père vaguement de droite, une mère vaguement de gauche. Ça correspond un peu à mes origines sociales, dont je parle assez longuement d'ailleurs.
Entre une famille, une branche aristocratique,
oui,
et une branche très populaire.
C'est ça, une branche aristocratique de la noblesse belge d'ailleurs, et plus lointainement néerlandaise. Et du côté de ma mère, une famille de paysans et d'ouvriers bretons et normands. Donc tout à fait des pôles opposés. Mais des pôles opposés qui ont beaucoup compté pour moi. Précisément parce que opposés, je les ai toujours perçus comme complémentaires. Et j'écris dans Mémoire vive qu'au fond, je suis très content de venir de ces deux milieux sociaux qui ont comme point commun de n'avoir jamais partagé les valeurs bourgeoises.
Donc, arrêtons-nous un instant sur ça, parce que c'est vrai que vous avez toujours été très critique à l'égard de la bourgeoisie, de la bourgeoisie individualiste, qu'elle soit petite, grande ou moyenne d'ailleurs. Oui. C'est pourtant cette bourgeoisie qui a triomphé au XXe siècle, et du fascisme, et du nazisme, et du communisme. Ils ne sont pas aussi ridicules que souvent, on a bien voulu le dire.
Mais il y a eu de grandes heures de la bourgeoisie, je pense.
Vous allez nous remonter à la Révolution.
Oui, il y a la Révolution, il y a le 19e siècle. Et moi, je ne suis jamais dogmatique. Je ne représente jamais, même mes adversaires, comme exclusivement porteurs de défauts, tout blanc. Je n'aime pas l'histoire en noir et blanc. Et je le dis dans Mémoire vive à plusieurs reprises, j'ai des convictions fortes, arrêtées, qui ont évolué. Mais en même temps, ça ne me viendrait pas à l'idée de disqualifier totalement quelque idéologie que ce soit, parce que je crois que même l'idéologie la plus fausse contient toujours un noyau, ou plus exactement une partie de vérité, qui est d'ailleurs souvent ce qui lui permet de s'imposer.
Alors reconnaissez, est-ce que vous ne reconnaissez pas rétrospectivement que cette bourgeoisie, si conspuée pendant tout le XXe siècle, finalement, s'en est pas si mal tirée ?
Mais elle ne s'en est pas si mal tirée de toute façon, elle s'est largement épanouie, portée qu'elle était par l'idéologie libérale de la démocratie représentative et de l'individualisme triomphant. La bourgeoisie, par ailleurs, a quand même beaucoup évolué. Rappelez-vous le bourgeois vieux style, austère, épargnant, la nouvelle bourgeoisie, c'est aussi les bobos, c'est aussi une sorte d'hédonisme qui contraste tout à fait avec l'ancienne bourgeoisie, enfin que je ne trouve pas préférable pour d'autres raisons. Mais il n'empêche que la bourgeoisie, c'est quand même historiquement ce qui a introduit une sorte de coin entre le monde féodal aristocratique et le monde populaire, dont les valeurs étaient à bien des égards complémentaires. C'est celle qui, avec l'ère industrielle, a déchaîné l'aliénation humaine, vidé les campagnes, transformé des paysans qui vivaient une vie assez organique dans l'enfer des banlieues, des secteurs, des villes où c'est assez un prolétariat qui a incroyablement souffert. C'est pour moi, c'est peut-être un symbole, mais c'est la bourgeoisie versaillaise qui écrase les communards. Et je dois dire, j'ai beaucoup de mal à évoquer la Commune de Paris 1871 sans une certaine émotion, parce que c'est pour moi précisément l'alliance de choses auxquelles je suis très attaché, le patriotisme, qui a une dimension patriotique formidable dans la Commune, mais également une inspiration communaliste, socialiste, fédéraliste, une inspiration sorelienne ou proudhonienne, qu'on va voir s'épanouir ensuite avec le syndicalisme révolutionnaire qui aboutira en 1906 à la charte d'Amiens, les écrits d'Émile Bouget, de Benoît Malon, de Pierre Leroux, de tous ces auteurs pour lesquels j'éprouve, c'est vrai, une dilection toute particulière.
Alors justement, plus je vous écoute, Alain Benoît, et plus la question que je viens de vous poser me taraude, qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'extrême droite ?
Qu'est-ce que je suis allé
défendre,
faire
défendre, ça veut dire c'est défendre le racisme, le nationalisme, le militarisme, qui sont trois valeurs avec lesquelles vous n'avez plus eu aucun rapport
non,
ensuite.
D'autant plus que j'étais absolument antimilitariste dans ma jeunesse. J'explique que j'adorais lire les livres d'action, les livres d'aventure, mais les livres de guerre me tombaient totalement des mains. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses. D'abord, une sorte de déclic que je raconte dans le détail dans Mémoire vive.
Oui, mais c'est l'anecdote.
Et ça, c'est, oui, c'est un détail. Deuxièmement, j'avais, jeune, 16 ans, un désir passionné d'engagement. Ça, c'est le côté peut-être romantico-idéaliste, si vous voulez, et passionné, c'est-à-dire que j'aspirais vraiment à un engagement total. Il se trouve, c'était l'année où j'étais en classe de philosophie, qui a joué vraiment un très, très grand rôle pour moi, et c'était le contexte de la guerre d'Algérie, il ne faut pas l'oublier.
Vous auriez pu aller au Parti communiste.
Oui, j'aurais pu aller au Parti communiste. Je me suis posé la question, d'ailleurs, à l'époque. Et puis, presque tous mes amis ou presque tous mes camarades de classe étaient eux-mêmes au Parti communiste ou au PSU. C'était la grande époque du PSU, du Front universitaire antifasciste, l'Algérie algérienne, etc. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de conformisme. Et par rapport à ce conformisme, j'ai trouvé plus anticonformiste encore de me diriger dans l'autre sens. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais dans des conditions que je raconte d'assez près, et en disant d'ailleurs pas mal de choses qui, je crois, n'ont jamais été dites, car il n'y a pas eu tellement d'acteurs de ce milieu et de cette période qui ont mis complètement, comme je le fais dans Mémoire vive, à plat tout ce qu'on a fait, qui était quand même absolument extravagant, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites. C'était, de surcroît, un militantisme d'un genre qui a un peu disparu aujourd'hui, en ce sens que c'était une sorte de militantisme total, sacerdotal.
Comme à l'extrême-gauche, c'était, d'ailleurs, quelques années plus tard.
Tout à fait, bien sûr. François Bousquet, qui a mené les entretiens qui constituent la matière de ce livre, disait, c'est amusant à vous entendre, on a l'impression de...
D'entendre un ancien maoïste.
D'entendre un ancien Mao qui nous raconte... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des points communs. Je me souviens de la certaine émotion que j'avais eue en regardant le film de Romain Goupil qui s'appelait « Mourir à 30 ans » et qui racontait la vie des jeunes trotskistes de la mouvance Krivine et notamment la mort de Recanati qui avait été le chef de leur service d'ordre. Il y avait des petits bouts de film comme ça. Ça m'avait touché parce que je me disais finalement, j'entendrai pas le son. C'est la même chose, quoi. Hein. Cette forme de militantisme a beaucoup disparu parce que comme tout ce qui est durable, tout ce qui est solide, tout ça s'est un peu dissous dans une postmodernité qui s'apparente à ce que le sociologue Zygmunt Bauman appelle une société liquide, hein, une société faite de flux et de reflux, où tout devient un peu transitoire, éphémère, où même les luttes sociales sont toujours sectorielles et ne débouchent pas sur de grands projets collectifs, sur de grandes grèves générales, etc. La dernière grande grève générale, il faut quand même le rappeler, c'était en mai 68.
La grande grève ouvrière.
La grande grève ouvrière, bien sûr, parce qu'on ramène toujours mai 68 au défilé du Quartier Latin. C'est quand même, moi je ne l'oublie pas, la dernière grande grève ouvrière qui s'est déroulée en France. Et bon, cet esprit-là a changé. On retrouve la différence entre le monde d'avant et le monde d'après. Mais ça, c'est une... Il ne faut pas le prendre pour une réflexion de vieux con. Je pense que quand on arrive à l'âge que j'ai, on devient toujours un petit peu chroniqueur de soi-même. Et quand on regarde le jeune homme que l'on a été, on le regarde parfois avec une certaine tendresse, parfois avec un zeste de nostalgie, parfois aussi avec de l'étonnement. Mais en même temps, on regarde un film, je veux dire un monde, mais un monde qui ne subsiste plus finalement que dans les films de l'époque.
Hein. Alain Benoît, le jeune homme que vous avez été, vous le regardez aussi avec un peu de honte quand vous pensez au racisme qui était peut-être pas le vôtre, mais en tout cas celui du parti auquel vous apparteniez et que vous avez défendu, accepté en tant que tel. Et vous racontez dans Mémoire vive que vous en avez honte de ça aujourd'hui.
J'ai raconté comment j'avais honte des attitudes racistes. Et je ne scelle pas ma responsabilité dans ce domaine. C'est certainement la thématique ou l'une des thématiques avec lesquelles j'ai rompu le plus vite et j'explique le cheminement intellectuel qui m'a amené à cette rupture. La honte, Je vais vous faire une réponse franche. Les sentiments sont très mêlés. Bien sûr, il y a des choses qu'on regrette, il y a des choses qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une aventure formidable. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour des jeunes de 16 ou 18 ans qui n'ont jamais eu un coup de folie de ce genre, qui ne se sont jamais engagés totalement. C'est une école aussi, c'est une école de discipline, de contrôle de soi, de solidarité, d'amitié. Je pense que les militants aujourd'hui de lutte ouvrière, peut-être, pourraient en dire autant. Hein. Donc, je suis bien conscient de la grande distance que dès 66-67 à peu près j'ai pris avec ce milieu-là. J'explique qu'en 68 j'ai rompu d'une part avec l'extrême droite, d'autre part avec l'action politique. Mais en même temps, c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir vécu. Je ne regrette pas d'avoir vécu parce que c'est un élément formateur. Nietzsche parlait des rudes écoles. C'est une rude école. Alors, on n'y apprend pas que des choses intéressantes ou vraies. Les idées sont courtes, les instincts sont un peu éparpillés. Mais je ne le regrette pas en sachant que j'en suis très loin.
Le tête-à-tête, Frédéric Taddeï, Alain Debenoît.
Alain Debenoît, en 1968, en lançant la revue Nouvelle École et le GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, en fait, ce que l'on appellera plus tard la Nouvelle Droite, vous vouliez quoi exactement? Vous veniez de rompre avec l'action politique, avec l'extrême droite, vous vouliez quoi? Doter la droite d'un corpus idéologique qui lui permette de prendre le pouvoir culturel? Ce que vous appeliez un gramscisme de droite, la métapolitique?
Ce que je voulais surtout, c'était repartir à zéro. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que dans ma grande jeunesse, j'avais finalement dit beaucoup de bêtises, répétées par discipline de parti, des slogans qui ne correspondaient pas forcément à ce que je pensais. Et j'ai voulu, ce qui est peut-être une ambition très, très excessive, essayer de remettre les choses complètement à plat, de repartir à zéro et d'essayer de porter un regard alternatif par rapport à l'idéologie dominante sur l'ensemble des domaines du savoir et de la connaissance. Je dis dans Mémoire vive que mon ambition, pour prendre une formule, c'était de faire à la fois l'Action française, l'École de Francfort et le CNRS. Bon, vous mesurez évidemment le caractère totalement irréaliste de cette ambition, mais telle que je la formule, elle définit bien, malgré tout, ce que je voulais faire. Alors, les scories de droite sont tombées petit à petit, mais dans une première période, parce qu'on ne comprend pas l'histoire de la Nouvelle Droite si on ne la périodise pas, dans une première période, oui, on s'est dit, après tout, on avait des idées, des gens de droite. Bon. Nous nous sommes en réalité très rapidement aperçus que les gens de droite, d'une manière générale, outre une paresse intellectuelle atavique, ne sont pas très intéressés par les idées, surtout quand ces idées risquent de compromettre leurs intérêts électoraux ou financiers.
Les idées ou par l'idéologie? Parce qu'au fond, vous étiez des idéologues.
Nous étions des idéologues, mais la matière première, c'était quand même des idées. Ce que je peux dire simplement, c'est que nous nous sommes toujours efforcés de faire en sorte que ces idées ne soient pas déconnectées du réel. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours un sentiment très, très aigu qu'on ne peut pas énoncer des idées dans le vide. Elles prennent un sens par rapport à une époque, et le changement d'époque peut amener à en modifier, sinon le sens, du moins la portée. Il y a des débats qui sont devenus totalement obsolètes aujourd'hui. Par exemple, on ne va plus s'empoigner, sinon dans des marges microscopiques, sur la question de la République ou de la monarchie, par exemple. Hein. Beaucoup de débats sont dépassés. Et c'est ce que nous voulions faire, dépasser. Mais alors, puisque vous posez la question à propos de la droite, il y a eu bien sûr l'expérience du Figaro Magazine, hein, car j'avais fait la connaissance de Louis Powells, qui était une forte personnalité, un homme plein de talent, qui affichait un certain courage, au moins dans certaines circonstances, et qui s'est vu proposer de prendre la direction d'un supplément littéraire du Figaro qui s'appelle Figaro Dimanche, et un an après, c'était en 78, de lancer le Figaro Magazine. Et Louis Powells a voulu absolument faire l'essentiel de l'équipe du Figaro Magazine avec les gens de la Nouvelle Droite. Et comme il avait l'enthousiasme des convertis et des néophytes, n'est-ce pas, il était à la limite encore plus déchaîné que nous ne l'étions nous-mêmes. Et le Figaro Magazine, c'est comme ça qu'il s'est lancé pendant au moins 2 ans. Louis Poel, je me disais, on en fera l'organe de Nouvelle Droite, etc. etc.
Bien. Avec un succès, hein, en plus, de vente le succès, considérable.
Le succès, il y avait quand même, il faut bien le dire, quand même beaucoup de talent à cette époque. Et le succès est venu, puisque c'est à cette époque-là que le Figaro Magazine a frôlé, je crois, une diffusion d'1 million d'exemplaires, ce qui était considérable. Hein. Surtout, n'oubliez pas que c'était le premier journal gratuit à l'époque. Bon.
Enfin, on l'obtenait en achetant le Figaro du samedi, comme aujourd'hui encore, c'est le cas.
Évidemment, ce succès a déclenché des rancœurs, des jalousies. Il y avait un vieux contentieux vis-à-vis de Robert Hersant, que moi je n'ai jamais rencontré de ma vie, mais enfin qui était quand même le patron du Figaro. Et il y a eu des pressions.
Enfin, il y a eu une vraie bataille idéologique. Benoît, vous étiez contre les droits de l'homme.
Oui, absolument.
Vous étiez contre les valeurs universelles, le capitalisme.
Tout à fait. Alors, évidemment, d'abord, il y avait un côté un petit peu surréaliste, parce que j'exprimais sans phare des points de vue très anti-libéraux, anti-capitalistes, dans le journal qui était quand même le journal, l'organe central de la bourgeoisie française, si vous voulez. Moi, je trouvais ça très drôle, mais évidemment, ça posait quand même des problèmes aux animateurs du journal. D'autre part, c'est apparu, évidemment, toutes ces idées nouvelles qui véhiculaient un grand tirage, qui n'étaient plus exprimées seulement dans des journaux relativement confidentiels. Évidemment, inquiétés, terrorisés, des gens qui n'étaient pas d'accord, à tort ou à raison. Les milieux publicitaires s'en sont mêlés, des pressions se sont exercées, et puis là-dessus, il y a eu un basculement qui a été l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, qui, moi, ne m'a fait ni chaud ni froid, parce que je trouvais que le Giscard ne méritait pas de rester dans ses fonctions. Et donc, j'affichais devant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir le calme des vieilles troupes, n'est-ce pas ? Mais pour elle, c'était absolument théorisé. Je me souviens de scènes absolument comiques et même, disons-le, un peu grotesques, où Poel me disait, si vous avez des biens, il faut les enterrer dans votre jardin, n'est-ce pas ? Enfin, on voyait déjà l'armée rouge déboucher sur la place de la Concorde. Tout ça était franchement ridicule. Et à partir de ce moment-là, Poel s'est redroitisé considérablement, il s'est rallié au libéralisme, et petit à petit, nous avons été évincés du Figaro Magazine.
Il s'est même converti au christianisme,
oui,
après
un accident
qu'il avait eu, enfin, on connaît l'histoire, et vous étiez des païens tous, et vous aimez bien à cause de ça, d'ailleurs.
Oui. Alors, il s'est converti au libéralisme, au papisme, et au thatchéro-riganisme, tout ça dans la foulée. Bon, évidemment, nous ne devenions plus compatibles, n'est-ce pas, avec la chose. Et puis, la Nouvelle Droite s'est repliée sur ses positions, ses collaborations à des journaux moins importants.
Je vous interromps, Alain Benoît, est-ce que ça n'est pas le moment où vous avez été le plus près de ce que vous caressiez, finalement ? C'est-à-dire, c'est prendre le pouvoir culturel, ou en tout cas, influer sur le pouvoir culturel. Parce que c'était ça, la grande idée de la Nouvelle Droite. C'est de se dire, au fond, le film du dimanche soir, à l'époque, il y avait qu'un film, le dimanche soir, que tout le monde regardait, c'est plus important que le slogan d'un parti, c'est plus important que les chiffres de l'inflation ou du chômage. C'est là, finalement, que s'opèrent les vrais changements politiques.
C'est vrai.
Et vous n'avez jamais été si proche de d'irriguer, d'influer qu'au moment du Figaro Magazine.
Mais en même temps, c'était fondamentalement ambigu. Vous avez tout à fait raison de dire que nous n'avons jamais été aussi proche de cette ambition, de réaliser cette ambition. Et en même temps, dans la mesure même où elle a commencé de se réaliser, j'ai vu à quel point c'était décevant.
Vous n'en aviez pas envie, au fond, c'est ça ?
Non, je n'ai pas le tempérament d'un conseiller du prince. Je suis toujours dédoublé. Je me regarde vivre, je m'engueule moi-même. J'ai toujours une certaine distance vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des choses. Et comme j'étais totalement insensible aux modes, aux honneurs, aux avantages, à ce que m'avait fait miroiter tel ou tel, qui m'aurait valu des rentrées financières tout à fait considérables.
Oui, vous racontez un certain nombre de ces rencontres dans votre livre, dans Mémoires vives,
d'ailleurs,
où des hommes d'affaires vous appellent au Liechtenstein et vous proposent des valises de billets du moment que vous acceptez de défendre l'économie de marché, par exemple.
Et ça ne marchait pas, justement. Et ce sont des choses que je n'avais jamais dites, n'est-ce pas ? Et je raconte là, parce que bon, le temps a passé, bien entendu. La nouvelle droite a continué sa route avec des moyens évidemment plus modestes. Et à ce moment-là, on voit aussi que toutes les personnes qui venaient me lécher les mains lorsque j'étais susceptible de parler de leurs livres dans le Figaro magazine, à ce moment-là, on ne les intéresse plus du tout, n'est-ce pas ? Bon, bah enfin, ça c'est le jeu parisien tout à fait classique, et vous le connaissez certainement mille fois mieux que moi.
Alain Benoît, pendant toute cette période... En fait, la question que j'ai envie de vous poser, les intellectuels ont-ils encore de l'influence ? Pendant toute cette période, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, les financiers, n'ont-ils pas été beaucoup plus créatifs que les intellectuels ? Et au fond, les chiffres n'ont-ils pas gagné la bataille contre les lettres ? L'économisme n'a-t-il pas triomphé du culturel, culturel que vous convoitiez ?
Oui et non. Il est sûr que l'intellectuel, aujourd'hui, ne peut plus du tout jouer le rôle qui était le sien au XIXe siècle et encore dans une partie du XXe siècle, c'est-à-dire d'exercer une sorte de magistère moral, de jugement critique et d'être en quelque sorte le porte-parole des sans-voix. Ce rôle de l'intellectuel était profondément associé à l'importance de l'université, qui était généralement le siège d'où s'exerçait cette autorité morale. L'université a beaucoup perdu de son prestige, l'enseignement et l'école sont devenus ce que l'on sait, et les intellectuels ne peuvent plus du tout exercer le rôle qui était encore celui des derniers, c'est-à-dire Sartre, Barthes, Foucault et quelques autres. Aujourd'hui, l'intellectuel n'a plus le choix qu'entre deux attitudes, soit devenir une espèce de fou du roi qu'on sort de temps en temps à la télévision comme expert pour le consulter. Alors il fait le beau, il fait quelques phrases définitives et puis il rentre chez lui. Mais enfin, il devient ipso facto un objet du système. Ou bien alors de se replier sur l'entre-soi des milieux académiques qui vivent entre eux, autour de publications assez financiel. Donc, vous avez raison, il y a un déclin très profond de l'intellectuel. Je me souviens des pages que Régis Debray avait consacrées à ce problème qui était particulièrement bienvenu. Mais en même temps, est-ce que ce déclin de l'intellectuel veut dire que les idées ne jouent plus du tout un rôle ? Je ne le crois pas. Bien sûr, si aujourd'hui Karl Marx publiait Le Capital, il serait invité peut-être une émission de télévision et puis ça n'irait pas plus loin. Bien sûr, aujourd'hui, il y a peu de gens dont la vie est réellement changée par une lecture, par un livre, ce qui était le cas autrefois. Il y avait des gens qui vous disaient « j'ai lu tel livre, ça a décidé de ma vie ». Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais les idées sont toujours là. L'idéologie est toujours là. Il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, les idéologies, c'est fini. Mais en réalité, nous nageons dans l'idéologie à ceci près qu'aujourd'hui, c'est l'idéologie de la marchandise.
Mais alors justement, pardonnez-moi de vous interrompre, oui. Mais en 45 ans, vous avez énormément travaillé, Alain de Benoît. Vous avez beaucoup publié, vous avez beaucoup évolué. Vous n'avez cessé d'affiner une idéologie, un système de pensée politique original. Vous pourriez avoir le sentiment du travail accompli, parce que quoi que vous en disiez, vous avez balayé le champ de la réflexion au cours de ces 45 dernières années. Vous n'avez peut-être pas fait à la fois l'école de Francfort et le CNRS, mais il n'y a pas de sujet sur lequel vous n'ayez pas réfléchi, publié. Il y a un corpus considérable, si l'on réunit tous vos écrits. Vous pourriez avoir le sentiment du travail accompli, et pourtant, vous n'avez pas pris le pouvoir culturel, vous n'avez pas influencé autant que vous le voudriez, mais est-ce que c'était au fond ce que vous vouliez ?
D'abord, prendre ma retraite, ce n'est pas du tout de mon tempérament. Hein. Je le dis dans mes voix vives, il ne faut jamais s'arrêter. Hein. On s'arrête pour des raisons physiologiques, hein, parce qu'on meurt. Mais tant qu'on n'est pas mort, il faut continuer. Deuxièmement, il y a plusieurs définitions de l'intellectuel. Pour revenir une seconde sur cette question que vous évoquiez, pour moi, l'intellectuel, c'est simple, c'est celui qui cherche à comprendre et à faire comprendre l'époque dans laquelle il vit, hein, au moyen de toute une série de travaux, d'analyses, de réflexions, etc. Donc, c'est très lié à l'époque. Or, notre époque se transforme considérablement, et par conséquent, des travaux que nous avons pu nous-mêmes publier il y a 30, 40 ans n'ont plus la même validité aujourd'hui. Il y a toujours des événements nouveaux, il y a toujours des phénomènes idéologiques nouveaux sur lesquels on peut être amené à se prononcer. D'autant plus que l'histoire, il faut le rappeler, est toujours ouverte. je crois qu'on l'oublie parce qu'aujourd'hui, on est dans un système social où l'idée sous-jacente, c'est que c'est une société certes imparfaite, qu'on peut améliorer à la marge, mais fondamentalement, on ne peut pas en changer. D'un côté, nous voyons se déverser un flux, un Niagara de signes, de sons, d'images qui donnent l'illusion d'une multitude de choix, démultipliés encore par Internet, réseaux sociaux, etc. Et en même temps, on n'a jamais été autant dans le règne de l'unique. Ce n'est pas un hasard si l'expression de pensée unique...
Qu'on vous attribue d'ailleurs.
Oui, c'est moi qui l'ai inventé. C'est répandu finalement pas mal. Ce n'est pas un hasard si les économistes vous disent que les politiques n'ont plus de rôle à jouer parce que les experts sont beaucoup plus compétents. On a vu les résultats de leurs compétences entre guillemets. Ce n'est pas un hasard si Margaret Thatcher pouvait dire avec un certain nombre d'économistes libéraux, il n'y a pas d'alternative, le TINA, there is no alternative. Ce n'est pas un hasard si, en zappant les chaînes de télévision à de très rares exceptions près, heureusement, il en existe, mais on a l'impression de voir un peu toujours les mêmes.
Mais alors, est-ce que ça n'est pas votre échec à vous aussi, Alain Benoît, puisqu'en dépit de ces 45 ans de travail, je ne dis pas ça que pour vous, parce qu'après tout, vous êtes peut-être trompé sur tout, mais est-ce que ça n'est pas quelque chose de terrible de se dire tout ce que j'ai dénoncé n'a cessé de prospérer ?
Ce n'est pas un échec, c'est un sentiment d'une certaine amertume, oui. Alors, un échec, oui, évidemment, mais vous voyez les moyens dérisoires que nous avions. On ne change pas le monde avec cela, et comme disait l'autre, c'est déjà bien quand le monde, lui, si on ne change pas le monde, que le monde, lui, ne vous change pas. Il ne nous a pas changé, et en particulier, il ne m'a pas changé. C'est l'un des rares motifs de fierté que je peux avoir à mon âge. Mais il y aura toujours cette nécessité d'expliquer. Et après tout, vous savez, les écrits, c'est l'image de la bouteille à la mer. Ça sera peut-être lu un jour, ou ça ne le sera pas. Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas faire autre chose, de toute façon. Donc, je fais ce que j'aime le plus faire, et puis ce pourquoi je crois que je me débrouille encore pas trop mal par rapport au reste. L'histoire est ouverte. L'histoire est ouverte et je ne peux pas me résoudre à penser que le type de société dans lequel nous vivons va se perpétuer à l'identique. Je crois qu'il est traversé de contradictions internes terribles. Je crois que le système de l'argent va périr, non pas sous les assauts de ses adversaires, à qui on pourrait dire « vous aussi vous avez échoué », mais du fait de ses propres contradictions internes. Je pense que l'imagination des hommes, l'imaginaire symbolique est de nature telle qu'il recréera toujours de nouveaux modèles de société, que les circonstances créent aussi les hommes et que, à l'heure actuelle, dans cette époque de transition, où, comme dit Junger, les anciens dieux sont morts et les nouveaux dieux ne sont pas encore apparus, eh ben, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui cheminent et puis qui continuent pour assurer la transmission.
Dernière question, Alain Benoît, est-ce que vous n'avez pas l'impression de temps en temps que la France du général de Gaulle, que vous avez combattue à l'époque, même si vous ne vous êtes jamais consacré comme un anti-gaulliste.
Oui, je suis devenu gaullien assez vite.
Oui, mais est-ce que cette France-là n'était pas plus proche, finalement, de la France telle que vous la rêvez ?
Par certains côtés, mais ça, ce sont les côtés nostalgiques. Vous savez que depuis 2 ou 3 ans, la moitié de la population mondiale vit dans les grandes villes. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les grandes villes. On a assisté, notamment en France, à une dépopulation des campagnes qui a été une révolution silencieuse dont un certain nombre d'auteurs a parlé, mais dont on n'a pas mesuré toutes les conséquences, évidemment. Ne croyez pas que je sois hostile, que je sois nostalgique, je veux dire, de la petite vie tranquille, des pépères paysans, etc. Elle avait de bon côté. Elle avait de bon côté dans le domaine des traditions populaires, elle avait de bon côté dans les rapports organiques, de solidarité, d'échanges spontanés, de dons et de contre-dons. Elle avait de bon côté dans le rapport à la nature, qui a aujourd'hui été perdu de vue. Mais je ne suis pas un restaurationniste. Dans le monde qui s'annonce et dont j'essaye d'identifier les contours, je ne le regarde pas avec crainte, mais avec un intérêt passionné, et j'en attends aussi des choses positives.
Merci Alain de Benoît d'avoir été mon invité sur France Culture. Votre dernier livre s'intitule « Mémoire vive ». Ce sont des entretiens avec François Bousquet, paru aux éditions de Fallois. C'était le Tête-à-Tête, une émission préparée par Romain de Bec-de-Lièvre et réalisée par Philippe Baudouin. La technique aujourd'hui Alain Joubert. Tout de suite, Théâtre et compagnie avec Blandine Masson. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.
Dinak 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 din தக்க கஜுன் தக்க கஜுன் தக்க கஜுன் தரிகிடுதா தக்க கஜுன் தக்க கஜுன் தக்க கஜுன் தக்கிடுதுக்கு தெரிகிடுதா தக்க கஜுன் தக்க கஜுன் தக்க கஜுன் தரிகிடுதா தக்க கஜுன் தத்த கஜுன் தக்க கஜுன் தக்கிடுதுக்கு தெரிகிடுதா தித்தா திந்தத்தா தின்னக்கு தா தனங்குதா தித்தா திந்தத்தா தின்னக்கு தா ராம் ராம் ராங்குதா தின்னகு தின்னகு தா தக்க தனகு தனக்கு தை தின்னகு தின்னகு தா தக்க தனகு தனக்கு தை தின்னகு தின்னகு தின்ன தனக்கு தனக்கு தின்ன தின்னகு தின்னகு தின் தனக்கு தனக்கு தின் தாம் தாக்கு ஜொன் தாக்கு ஜொன் தாக்கு ஜொன் தாம் தாக்கு ஜொன் தாக்கு ஜொன் தாக்கு ஜொன் பிளாம் பிளாம் தாம் தீம் தனக்க ஜுனு தோம் தோம் தக்க ஜுன் தீம் ததி தக்க ஜுனு தோம் தோம் தக்க ஜுன் தீம் ததக்க ஜுனு தோம் தோம் தக்க ஜுன் தீம் தகிட்ட ஜுனு தோம் தோம் தக்க ஜுன் தீம் ததக்க ஜுனு தோம் தோம் தக்க ஜுன் தீம் ததக்க ஜுனு தோம் தோம் தக்க ஜுன் தகிட்ட 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 தா